Done. En tant que scientifique, cela fait quelques années que je m'interroge sur les origines, celles de l'espace et du temps tout d'abord, puis celles de la Terre et de la vie, qui est le sujet d'un livre que je viens de publier. Et pour l'écrire, en faisant mes recherches, je suis tombé sur deux cartes qui m'ont tout particulièrement fait réfléchir. L'une d'entre elles est une carte côtière, l'autre est une carte du fond des océans. Sur les deux, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne n'avait vu avant les personnes qui les ont dessinées. La première de ces cartes date de 1858. Il s'agit de deux dessins du géographe français Antonio Snyder Pellegrini, deux dessins du monde mis côte à côte. Sur l'un des deux, on voit une boule, en noir et blanc, sur laquelle apparaît l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est la Terre d'aujourd'hui, on la reconnaît. Au-dessus, il y a écrit « Après la séparation ». L'autre dessin est presque le même. Il s'agit toujours de la Terre et l'Afrique n'a pas bougé. Mais l'Amérique latine n'est pas au bon endroit. Elle est contre l'Afrique et il est impossible de ne pas voir que leurs côtes s'imbriquent parfaitement comme deux pièces d'un puzzle. Au-dessus de ce dessin-là, il est écrit « Avant la séparation ». Avec ces deux dessins, Snyder Pellegrini venait de découvrir et même de montrer que les continents pouvaient se briser et dériver et se retrouver séparés par des océans. L'autre carte qui m'a fasciné était dessinée presque 120 ans plus tard, en 1977, par la géologue et cartographe américaine Mary Tarp. C'est la première carte des profondeurs marines, une carte établie à partir de données récoltées en mer par des bateaux équipés de sonars. En fait, en mesurant le temps mis par un son pour aller rebondir sur le fond de l'océan et remonter jusqu'à la surface, les scientifiques ont pu estimer la profondeur de l'eau un peu partout sur la planète. Et c'est dans ces données-là que Mary Tarp a vu apparaître une chaîne de montagnes sous-marines. Une chaîne gigantesque, continue, encerclant la Terre au milieu des océans et longue de plus de 60 000 km. Une chaîne volcanique. C'était par là qu'arrivait la roche fondue des entrailles de la Terre. C'était là qu'était créée la surface des océans. La dorsale de Mary Tarp montrait que, comme l'avait pensé Snyder Pellegrini un siècle plus tôt, les continents dérivent. Elle donnait aussi un mécanisme à cette dérive. De la nouvelle roche sortait en permanence au niveau des abysses océaniques. Alors pour comprendre ce qu'il en est aujourd'hui, pour parler de cartes et d'océans, d'aventures et de volcans sous-marins, voici mes trois invités.
Isabelle Autissier, donc je suis navigatrice, écrivaine aussi un peu. Moi j'ai été, il y a une carte qui a fasciné peut-être ma vie, c'est celle que j'avais au-dessus de mon lit quand j'étais petite fille. C'était une carte marine que j'avais dû piquer à papa, je pense, de l'ensemble de l'océan Atlantique, du nord au sud. Alors évidemment ça me faisait rêver d'aller sur cet océan, mais en particulier, ce que je ne savais pas encore être la dorsale médio-atlantique, ces îles qui sillonnaient en quelque sorte le milieu de l'Atlantique, en commençant par l'Islande et en finissant par Tristan da Cunha, Gou, Inaccessible Island, qui étaient les plus près de mon regard parce que c'était en bas de la carte. Et je regardais ça et je me disais, quand je serai grande, je sais où j'irai.
Christian Gratello, alors je suis géographe, mais enfin ça fait 25 ans que j'ai un emploi parce qu'on dit que je suis plus historien des géographes. J'étais prof de géo à l'université Paris Diderot et j'aime bien m'attribuer le terme de géohistoire, qui est un terme de Fernand Braudel. Je suis géographe parce que la géo m'a évité de trop choisir. Et que, justement, il y a un peu de géographie physique et un peu de géographie humaine, mais ça me permet de faire de l'histoire. J'ai aussi fait pas mal d'études d'anthropologie et l'ensemble m'a permis... L'histoire est beaucoup trop cloisonnée. Donc, la grande liberté, oui. Et évidemment, les cartes... Ben, j'y suis venu, ça fera la transition avec ma voisine, j'y suis venu par la coupe géologique, en fait. C'est mon prof, on disait de sciences nat à l'époque, qui m'avait fasciné en quatrième parce que, justement, là où j'allais d'habitude en week-end avec mes parents, j'ai vu ce qui était dessous et j'ai vu par rapport à la carte. Ça a été pour moi trois dimensions fascinantes.
Mathilde Cana, donc moi je suis directrice de recherche au CNRS nouvellement émérite et je travaille dans une équipe de géosciences marines. Donc je suis géologue, mais je suis géologue des fonds des océans et en particulier géologue des dorsales médio-océaniques, là où les plaques se créent, en fait. Les plaques océaniques se créent. Et je dois dire que, en fait, j'ai travaillé toute ma carrière là-dessus avec une grande obstination. Mais ce qui est formidable, c'est que dans la durée de cette carrière, donc en gros depuis le début des années 90, on a vraiment continuer les découvertes qui avaient commencé avec Marie Sarpe et d'autres. Et on a pu découvrir en particulier beaucoup de complexités sur ce qu'on appelle les dorsales océaniques lentes, hein, c'est-à-dire celles qui écartent les plaques à moins de 4 cm par an. Et un bon représentant de ça, c'est la dorsale médio-atlantique. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait des cartes avec des navires, hein, et j'ai aussi eu la chance de participer à beaucoup de plongées dans le submersible Nautile pour aller faire de la géologie.
Isabelle Autissier, Christian Grataloup, Mathilde Cana, bonjour et bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes à Blois en public dans l'auditorium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé Grégoire et nous allons explorer le sens des cartes et des océans.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Isabelle Autissier, en 1991, vous avez été la première femme à faire le tour du monde en compétition et en solitaire. Dans ce genre d'aventure, quelles cartes est-ce qu'on emporte avec soi ?
Alors, on emmène des cartes, surtout moi qui suis une amoureuse des cartes papier, parce qu'évidemment, maintenant, sur les bateaux, on a des cartes électroniques, c'est facile, on a le petit bateau qui est positionné en permanence avec le GPS. Mais oui, on emmène des cartes de très grande échelle, hein, puisque, en gros, on n'a besoin que de ça. Il y en a une que j'adore, c'est celle qui met le pôle sud au milieu, puisque notre boulot, c'est d'en faire le tour. Hein. On descend l'Atlantique, on fait le tour et on remonte. Et de faire avancer nous-mêmes, les petites croix sur la carte, c'est un super moment de la journée, en fait. Donc oui, j'ai des cartes, mais au fond, moi, je tourne autour de l'Antarctique. Il n'y a pas de barrière pour rentrer dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, quoi. Hein. C'est un grand océan, en fait.
Ça me rappelle le film Fitzgeraldo de Werner Herzog, où on voit le capitaine d'un navire faire tirer son bateau pour traverser une montagne et passer d'un océan à un autre en allant plus vite. Ça, c'est effectivement une question que je me suis posée depuis longtemps. Je pense que Christian Grataloup, vous avez une explication. On apprend à l'école qu'il y a 3 océans. Mais il n'y en a pas 3. Si on regarde une map monde, il n'y en a qu'un.
Effectivement, on en découpe officiellement 5, parce qu'il y a aussi l'océan glacial antarctique et l'océan arctique, qui est tout petit. Donc c'est un découpage totalement social, totalement formel. Il y a bien des tas de découpages que la géologue va pouvoir faire. Mais au point de vue hydrologique, une goutte d'eau peut faire absolument le tour de la Terre. On dit qu'il lui faut 5 ans. Et c'est en gros une même masse d'eau. Si vous acceptez quelques mers type la Caspienne, quoi, qui sont effectivement intérieures. Donc c'est un découpage qui a été fait par toute une histoire européenne où on a fabriqué des cartes. Je me suis amusé depuis le 15e siècle à prendre les planisphères et voir quels noms on mettait et quelles limites approximatives on mettait aux océans. Aujourd'hui, on trace des lignes très très précises, c'est entre autres pour les assurances, d'ailleurs.
Et, on n'a pas le droit de dépasser hein, ça a une certaine limite en
voilà,
bateau.
Voilà, l'océan glacial antarctique, c'est 60 degrés sud. Hein. C'est, évidemment, on ne le voit pas. Bon. Donc, sauf dans certaines bandes dessinées où on voit les lignes. C'est donc quelque chose qui a une histoire. Et entre autres, ce qu'il faut se dire, c'est que ça aurait pu être tout à fait autrement. C'est ça qui est fascinant. Par exemple, il n'y a aucune raison que le trait de côte ait été une dominante majeure de notre cartographie. Il y a toute une tentative cartographique française, d'ailleurs au début du XVIIIe siècle, où on coupe au milieu de l'océan. C'est une vision terrestre. On prolonge les terres jusqu'au milieu. Et donc, on a une mer érythréenne, on ne dit pas d'ailleurs encore africaine, qui va pratiquement jusqu'à Sainte-Hélène, et puis une mer brésilienne qui la rejoint au milieu. Mais il n'y a pas d'Atlantique Sud. Jusqu'au XVIIIe, d'ailleurs, on ne disait pas vraiment l'Atlantique, on disait la mer Mar del Norte, parce que c'est la cartographie néerlandaise qui dominait, et Mar del Sur pour le Pacifique. Il en était resté l'expression les mers du Sud. C'est un héritage historique.
Vous disiez que les gouttes d'eau de l'océan peuvent faire le tour de la planète, mais est-ce qu'elles ne suivent pas des chemins particuliers qui fait qu'en réalité, certaines gouttes d'eau ne vont jamais d'un océan, comme on les appelle nous, à un autre ?
Oui, d'ailleurs,
ces séparations-là existent-elles ?
Ces gouttes d'eau peuvent aussi s'évaporer,
absolument.
Et on a tout un cycle de l'eau qui là. Donc, oui, bien sûr, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, une goutte est une notion qui n'est pas vraiment scientifique, donc elle va se décomposer en diverses molécules. Mais on a effectivement des routes privilégiées que la navigatrice connaît bien, des courants et des vents qui ne se superposent d'ailleurs pas tout à fait, parce que les courants ont des contraintes de bord, justement, que n'ont pas. Enfin, ce n'est pas les mêmes pour les vents. Et donc, vous avez ces routes que, du point de vue de la géographie historique, on connaît bien, parce que ce sont les routes de ce qu'on a appelait en Europe, expression qu'il ne faut plus utiliser à Blois, hein, les grandes découvertes. Donc je mets les guillemets postcoloniaux. Voilà.
Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des territoires, Isabelle Autissier, où les cartes que vous aviez à disposition n'étaient pas bonnes?
Ah oui, souvent. Souvent, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est naviguer au sud de 50 Sud ou au nord de 50 Nord. Et comme c'est des endroits qui n'intéressent pas beaucoup les humains, parce que pour l'instant, en tout cas, il y a peu de ressources, il n'y a pas d'humains vraiment implantés ou assez peu, bah, comme ça coûte cher, on ne fait pas les cartes. Donc, il y a des tas d'endroits, je pense évidemment à l'Antarctique, mais même en Islande. Il y a des endroits, l'Islande, c'est des paquets de cailloux, et il y a des endroits, ça les a un peu fatigués, je pense, de répertorier tous les cailloux. Donc on marque une surveyed, hein, puisque c'est des cartes anglo-saxonnes, ça veut dire pas répertorier. Donc évidemment, pour nous, les marins, c'est un peu compliqué, parce qu'on aime bien savoir un peu ce qui va se passer sur le fond de la mer. Donc des fois, on fait nous-mêmes nos petites cartes, c'est-à-dire qu'on s'arrête à un endroit avec le bateau, on envoie le petit Zodiac avec un petit sondeur électrique, et on sonde pour voir par où on peut faire rentrer le bateau entre des cailloux, et des fois même j'ai mis des bouées sur les cailloux, des cailloux sous-marins bien sûr, hein, pour les visualiser, et ça c'est assez génial. Bon, on a l'impression d'être des explorateurs, en fait, on est, par rapport aux vrais grands explorateurs historiques, on n'est rien, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'endroits qui sont pas ou mal cartographiés.
J'adore l'image de cette carte que vous aviez dans votre chambre d'enfant, parce qu'il se trouve que j'ai aussi des cartes chez moi, j'en ai une géologique du sol de la Terre, immense, sur le mur, c'est très joli. Mais ce que ces cartes me font penser, c'est que ça nous donne une vision du monde. En réalité, ça ancre notre vision du monde dans une certaine réalité. Et je crois, Christian Grataloup, que justement, cet imaginaire, notamment marin, a complètement transformé notre vision du monde au fil des siècles. Lorsqu'on regardait l'océan et qu'on ne savait pas ce qu'il y avait au-delà ou quelque part au bout, on imaginait des choses phénoménales qui donnaient une représentation du monde particulière.
Nous sommes tellement habitués à voir le planisphère avec du haut et du bas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le nord en haut et le sud en bas, et de même un coupant dans le Pacifique, ce qui est par ailleurs un problème quand on parle des océans, parce qu'on a mis l'Europe au centre. Parce que c'est l'Europe qui a fait les cartes. Enfin, les cartes qu'on utilise aujourd'hui, qui donnent les noms qu'on utilise aujourd'hui, qui donnent les découpages que l'on pratique aujourd'hui. Donc cette vision du monde, elle nous est tellement naturelle. J'ai très longtemps formé à la cartographie des enseignants. Je peux vous dire que souvent je leur disais, aucun planisphère n'est juste, il faut multiplier les planisphères différents. Et ils me disaient, ça serait très bien pour les historiens à Blois, on va perdre du temps. Voilà. Or, effectivement, ce message subliminal que donne la carte, c'est absolument essentiel. Or, il y a un point qui m'a toujours frappé, c'est que les océans ont fait peur. Parce qu'on a passé son temps à les remplir de continents imaginaires. On connaît tous l'Atlantide, parce que ça remonte à Platon, au Timée, hein, c'est une vieille histoire. C'était en fait une espèce de modèle théorique, hein, pour une Athènes passée, bon, peu importe, c'est pas le sujet. Mais l'Atlantide, ensuite, a beaucoup fait rêver, et jusqu'à Black et Mortimer, enfin... C'est... Mais vous avez aussi, surtout même, parce que ça, c'était scientifiquement une démarche intellectuelle intéressante, l'image qu'il y avait un énorme continent dans l'hémisphère sud. Tout simplement parce qu'on envisageait le globe dans la physique aristotélicienne, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XVIIe siècle, hein, comme un culbuto. Il fallait que le globe soit équilibré, sinon on serait plus la tête en haut. Chaque fois qu'on a buté, par exemple, sur Sainte-Hélène, enfin sur une île, ou bien sur les premières côtes de l'Australie, on a pensé qu'on avait trouvé la Magellanie. Magellanie, parce que quand Magellan a franchi son détroit, il a laissé sur bâbord la Terre de Feu, et c'est lui qui lui a donné le nom, et on a cru que c'était le bout de cet énorme continent antarctique. Mais il y a aussi le continent mu, que Churchard, un écrivain, a inventé, remplissant tout le Pacifique. Là, c'est pour Corto Maltese, cette fois-ci, pour les bandes dessinées.
J'ai vu les deux.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a la Lémurie qui a rempli l'océan Indien, cette fois-ci, parce qu'on essayait de faire des parentés entre des animaux qui étaient à Madagascar, des Lémuriens, et puis en Malaisie ou en Australie, et on s'est dit... Il devait y avoir un continent effondré, enfin un continent qui reliait, qui permettait aux animaux de passer, puis tout s'est effondré, puis les géologues ont fini par dire « non, c'est pas ça ». Donc le mot est resté, à ce moment-là, ça a versé dans l'imaginaire. Donc en fait, on a rempli l'océan, sans doute parce qu'il fait peur.
Il y a un continent qui est sous les océans, qui a été découvert il n'y a pas très longtemps au niveau de la Nouvelle-Zélande, qu'on appelle Zélandia. Est-ce que ça ne justifie pas ces imaginaires de continents disparus de se dire, dans le sens que on n'a pas encore découvert tout ce qu'il faut découvrir de notre planète, qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre, même à cartographier, sur notre monde?
Oui, ben ça, c'est pas à moi de le dire, mais le fond de l'océan est peut-être moins bien connu que la face cachée de la Lune ou que le sol de Mars. Hein. Mais vous avez effectivement quelque chose qui est lié à la hauteur de la mer. Il faut pas oublier que ça bouge tout le temps, ça. On pense à la remontée actuelle. Mais il y a seulement 20 000 ans, il y avait 120 mètres de moins. Donc à ce moment-là, il y avait des tas de choses émergées. On avait une configuration des terres et des mers qui était tout à fait différente. Puis ça, non seulement eux, les continents bougent, comme vous l'avez évoqué d'entrée, mais d'abord, et ça va plus vite, les niveaux marins bougent aussi.
Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que du point de vue de la géologie, un continent, ça peut être sous l'eau.
Oui, non, c'est ça.
Toute une partie des continents sont en fait immergés.
Le mot continent, avant les plaques, n'a aucune signification scientifique. Ça veut dire la Terre en continu. C'est un mot qu'on a inventé au XVIe siècle. On le trouve sous forme d'adjectif dans Montaigne. Mais c'est vraiment codifié. On a tracé des limites au XVIIIe avec l'encyclopédie. C'est là qu'on a inventé l'Oural, par exemple, comme limite continentale. Ce qui ne nous intéresse pas, évidemment, aujourd'hui. Mais on a coupé et on a attribué les îles au continent au XVIIIe.
C'est
géopolitiquement important.
Aujourd'hui, les continents sont définis comment, du coup ?
Il n'y a pas de défi. Il n'y a aucune structure officielle, en dehors évidemment des géologues, mais c'est autre chose, qui définissent des continents. Et n'oubliez pas, par exemple, que l'article 22 des traités de l'Union européenne dit que tout pays européen peut être candidat. Maintenant, aller définir les limites de l'Europe. Ce que ne fait surtout pas la charte.
Oui, quelque part, les définitions des zones économiques.
La Banque mondiale fait des définitions,
sont fondées sur des définitions plus géologiques.
Par exemple,
parce que finalement,
Afrique du Nord et monde arabe.
Typiquement
une définition géologique. Vous voyez.
Parce que la définition géologique, finalement, elle existe.
Elle est plus donc, facile.
On sait si on a un sous-sol qui est de nature océanique, hein, au sens géologique du terme, ou pas.
En tout cas, j'espère que à aucun moment la géologie servira de base à la géopolitique. Ça voudrait dire, par exemple, que l'Inde pourrait annexer l'Australie. Ou l'inverse. Enfin, le rapport de force. Il n'y a qu'un document diplomatique que je connaisse, qui est la charte fondamentale de l'Union africaine, c'est de 2004, qui revendique effectivement l'indépendance de toutes les terres africaines et qui inclut, ce qui va certainement amuser la géologue, les Açores, par exemple. Parce que ça peut être africain comme ça peut être européen ou américain.
D'un point de vue géologique,
pour le géologue, j'espère que vous avez été choqué que l'Islande puisse être candidate à l'Union européenne en 2008, sans que ça ait la moindre discussion là-dessus, c'est pas la Turquie, dans la mesure où l'Islande aurait pu à l'époque, ça s'appelait l'ALENA, l'Union nord-américaine, elle aurait pu revendiquer d'adhérer aussi, ou alors la moitié ouest et la moitié est de l'Islande.
L'exploration des mers d'une façon générale, est-ce que vous vous ressentez comme parfois comme ça, comme il n'y a absolument aucune terre en vue? Est-ce que vous ressentez un cœur d'exploratrice, Isabelle Autier, ou est-ce que votre esprit vagabonde ailleurs?
Non, d'exploratrice, que je disais tout à l'heure, on est tellement petit par rapport à la mesure des gens qui partaient faire les cartes, qui partaient, moi par exemple, qui adore les terres australes et antarctiques françaises, quand Monsieur de Kerguelen part vers le sud, qui va chercher ce fameux continent qu'on espère, il ne sait absolument pas ce qu'il va trouver. Ce qui est très beau, c'est qu'à un moment donné, donc ils vont vers le sud, il fait de plus en plus froid, donc ils se demandent, et à un moment donné, ils voient des oiseaux dont ils savent que ce sont des oiseaux terrestres. Et c'est le vol des oiseaux le soir, ils se disent, les oiseaux rentrent à terre le soir pour nicher, et donc il y a quelque chose de ce côté-là. Et ils découvrent ces petits îlots en co, hein, Kerguelen, c'est des crottes de mouches sur la carte. Et ils se disent, ça y est, on a trouvé l'avant-garde du continent austral. Donc évidemment, il y a une certaine méprise. Donc non, nous on n'est rien à côté de ces gens-là, quoi. Mais en même temps, je pense que tous les gens, par exemple, qui traversent l'Atlantique par l'Alizée et qui arrivent aux Antilles, ce qui est une navigation relativement, je ne veux pas dire commune, mais quand même, ben on a tous un peu l'impression d'être Christophe Colomb, quoi. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait ça et que j'ai vu la Guadeloupe arriver à l'horizon, mais j'étais fière comme tout. Et voilà, donc il y a une espèce d'appropriation très, j'allais dire, très émotionnelle. Et puis, ce qui est très fort quand on navigue et qu'on est, en particulier la nuit, Donc au large, quand il n'y a évidemment pas de lumière parasite et qu'on voit le cosmos, là, ça met une claque, quoi. Parce que c'est là qu'on réalise qu'on est un grain de poussière. C'est là qu'on réalise qu'on est un tout petit individu sur une planète bleue, qu'on se dit, il n'y a pas une seule planète bleue dans tout ce que je vois à l'horizon. Et voilà, c'est plus de ce point de vue-là que la cartographie devient vraiment très personnelle.
Peut-être qu'on devrait envoyer quelques hommes et femmes politiques au milieu de l'océan pour prendre la mesure des choses. Et en attendant de leur envoyer cette invitation, nous allons écouter Les Enfants du Pirée avec Dominique A.
Noyés de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets orange tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Si d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du Pirée.
Nous sommes toujours en public depuis Blois en compagnie de la navigatrice Isabelle Autissier, du géohistorien Christian Gartelou et de la géologue marine Mathilde Cana.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
J'adore l'idée de chercher, d'essayer de comprendre notre monde. Et évidemment, ces cartes dont on parle depuis tout à l'heure sont une manière de figer une certaine connaissance à un certain moment. Mais il se trouve que on sait depuis quelque temps que notre monde n'est pas figé, que à la fois les représentations qu'on en a et le monde lui-même changent. Alors à notre échelle à nous, parfois de temps en temps une nouvelle île apparaît, mais les nouvelles chaînes de montagnes, ça prend des temps monstrueux. Et en revanche, sous les océans, il se passe des choses que on ne voit pas et qui ont lieu en permanence. Isabelle Autissier, lorsque vous traversez l'océan, vu qu'il n'y en a qu'un, est-ce que vous avez conscience parfois de ce qui se passe, non pas dans l'espace, comme vous nous en parliez il y a quelques instants, mais sous l'eau, au fond de l'océan, loin sous votre bateau?
Déjà, pas si loin que ça sous mon bateau, il y a des courants marins. qui sont en partie déterminées par la géographie. Pas que, hein, il y a aussi les phénomènes physico-chimiques, etc. Donc en fait, moi, je navigue sur un tapis roulant en permanence, parce que des courants, il y en a à peu près partout, quoi. Donc j'ai déjà cette conscience que je suis sur quelque chose qui est en mouvement, alors que la carte va me représenter quelque chose de figé, de dessiné. Et puis, quand j'approche d'une côte aussi, il y a... Alors là, pour le coup, c'est les interactions permanentes entre les fonds marins, ce qui se passe en mer. Par exemple, vous arrivez de grande profondeur, vous passez le Cap Horn. Vous arrivez
comme
de très grande...
Voilà,
si vous passez le Cap Horn. Vous arrivez de très grande profondeur océanique, de 1000, 3000 mètres de fond, sur justement ce qu'on appelle le plateau continental. Hein, les fonds remontent brutalement. Vous voyez rien de la surface. Mais ce que vous allez voir, c'est que la mer change tout de suite. Parce qu'en fait, les masses d'eau qui vont se heurter quelque part sous l'eau à ces remontées océaniques, ça va provoquer un changement sur la hauteur des vagues. Ça va les rendre plus abruptes, plus dangereuses. Nous, on a en permanence besoin de la carte de surface, bien sûr, mais on a aussi besoin de la carte des fonds. Et s'il fait mauvais temps, par exemple, je vais plutôt aller, si possible, vers des endroits où il y a des grandes profondeurs, plutôt que rester dans des endroits où il y a des plus faibles profondeurs, où je sais que ce sera plus dangereux.
Mathilde Cana, vous êtes géologue marine. C'est grâce à des personnes comme vous qu'on connaît un petit peu le fond de nos océans, peut-être même plus qu'un petit peu. C'est votre métier d'essayer de comprendre ce qui se passe sous le bateau d'Isabelle Autissier.
Oui, et d'ailleurs, je voudrais réagir, et avant de parler de connaissances scientifiques ou d'approches scientifiques, dire que effectivement, pour moi, enfin, j'ai sans doute passé moins de temps sur un bateau qu'Isabelle, mais quand même, en cumulé, ça fait un certain bout de temps. Et je suis toujours assez effrayée, en fait. J'ai presque le vertige dans un bateau, quand j'imagine. Parce qu'en général, comme je travaille sur les dorsales médio-océaniques, les profondeurs sont autour de 3000 mètres. Hein. Il y a quelque chose d'impressionnant à penser qu'on a 3, 4 kilomètres, 5 kilomètres d'eau et qu'on est sur une petite coque comme ça. Et même quand on descend avec le sous-marin... bon, d'abord, la première fois, je vais vous raconter l'histoire de la première fois où j'ai su que j'allais descendre dans le Nautil. Hein. J'ai eu peur pendant 3 mois. Et en fait, ma peur, c'était la peur d'avoir peur. J'avais peur de, comme on dit en anglais, freak out, de pas me contrôler.
Le Nautil, c'est un tout petit sous-marin, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que les sous-marins habités qui descendent très très profond sont nécessairement très petits parce qu'on doit être dans une sphère bien protégée. Il y a 3 personnes dans une sphère qui fait à peu près 2 mètres de diamètre, en gros, si vous voyez. Donc, et en fait, j'ai pas du tout eu peur, et c'était même pire parce qu'on descend avec 2 pilotes qui font comme s'ils étaient dans le métro. et ils amènent à manger, mettent de la musique, ils vous racontent des trucs, et c'était horrible d'arriver même à se concentrer pour voir l'énormité de la chose. Là où je veux en venir, c'est que même quand maintenant on fait surtout descendre des robots qui sont plus efficaces, eh ben ça reste quelque chose d'un peu initiatique, d'un peu magique de descendre jusqu'au fond. Donc voilà. Alors ensuite, effectivement...
Cette descente-là, vous étiez allé voir justement ces fameuses dorsales.
Oui, tout à fait, ouais. Donc les dorsales, c'est les endroits dans la tectonique des plaques. Il y a des endroits où les plaques se créent. C'est les dorsales médio-océaniques, hein, qui sont donc des chaînes volcaniques. Hein, et au milieu des océans, elles sont toutes très profondes, sauf l'Islande, mais ça, c'est un peu une autre histoire. Et il y a des endroits où, parce que la Terre n'est pas en train de gonfler, il y a des endroits où les plaques qui ont été créées se réengouffrent à l'intérieur du globe. Et ce dont une chose qui me paraît très, très importante, et plus ça va, plus je pense que c'est important que ça soit pris en compte, y compris intégré dans l'imaginaire public, hein, c'est que notre planète, elle est unique, hein, dans le fait que notre planète, elle a 4,5 milliards d'années. Le plus vieil endroit du plus vieil océan sur Terre actuellement n'a que 200 millions d'années. Alors 200 millions d'années pour nous, c'est beaucoup. Hein. Mais si vous regardez une carte de France, par exemple, je peux vous montrer 2-3 endroits où on va jusqu'à 3 milliards d'années. D'accord. Donc les continents sont très vieux. Ils se construisent depuis le début de l'histoire de la Terre et ils restent là, en gros. Les océans, ils n'arrêtent pas de circuler. 60% de la surface de notre planète est constamment en train de se créer à partir de matériel qui remonte de l'intérieur de la Terre et de se réengouffrer à l'intérieur de la Terre. Et ça amène de plus en plus, et c'est la chose qui vraiment me fascine d'arriver à faire advenir cette compréhension et de comprendre toutes les implications que ça a, c'est qu'en fait, notre système Terre, jusqu'au noyau, donc au moins les 3000 premiers kilomètres de notre planète, sont en circulation constante via la tectonique des plaques océaniques et en contact, en fait, avec les masses d'eau océaniques et avec la vie des masses d'eau océaniques. Et on découvre des choses fascinantes sur la façon dont des fluides liés au volcanisme sous-marin se propagent des matériaux qui sont des espèces chimiques qui sont favorables à la vie jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres de l'axe des dorsales et donc ont certainement un rôle sur la biosphère qu'on appelle profonde, qui est dans les masses qu'on connaît d'ailleurs très très mal, dans ces zones profondes des océans. Et aussi, on s'aperçoit de plus en plus que les micro-organismes ont un rôle très important pour la géologie, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire des réactions chimiques dans les roches beaucoup plus vite que sans micro-organismes. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Et on comprend donc que notre planète, géologie avec des échelles de temps un peu plus longues, jusqu'à la biologie et à nous avec nos échelles de temps ultra courtes et même trop courtes, on fait partie d'un système, un système Terre. Et c'est vraiment ça qui me fascine. Et les recherches qui m'excitent le plus en ce moment, c'est les recherches qui permettent de mettre le doigt sur ces interfaces entre le vivant et le fonctionnement de la géologie. Oui, voilà.
Christian Grataloup, est-ce que c'est parce que le fond des océans change tous les 200 millions d'années, ce qui est beaucoup trop rapide et nécessiterait des mises à jour trop à chaque 200 millions d'années, que la carte des océans n'est pas aussi précise que du fond des océans que le reste des territoires?
Non, c'est d'abord une question technique, c'est qu'il faudra enlever l'eau pour faire la... Donc on peut toujours rêver qu'un trou noir passe à proximité de la Terre et aspire tous les gaz, toute l'atmosphère et toute l'hydrosphère. Il n'y aurait plus de vivant non plus, donc on ne pourrait pas non plus faire de la géologie de ce point de vue-là. Mais enfin, ça ressemblerait à Mars. C'est quand même difficile ce que fait justement ce que vous venez de me dire, Mathilde. C'est vraiment pas facile. De ce fait, historiquement, l'historique de la plongée sous l'eau est très récent. C'est à la fin du 19e qu'il y a eu quelques vagues tentatives avant, mais c'était quelques mètres. Qu'on ait inventé des sous-marins, c'est techniquement difficile. Et ça, c'est vraiment l'extrême fin du 19e. Les guerres vont beaucoup faire progresser ça. Par exemple, si on connaît la tectonique des plaques, c'est grâce au sonar qui a permis de faire la cartographie que vient d'évoquer Mathilde. Et c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, sans la Seconde Guerre mondiale, on n'en serait sans doute pas là où on en est de la connaissance de la tectonique des plaques.
Ce qui signifie qu'une des raisons de cartographier le fond des océans, la première potentiellement est militaire, pour pouvoir peut-être détecter d'autres sous-marins, et peut-être l'idée de ressources. Est-ce qu'en ce sens, il y a un parallélisme qu'on peut faire entre les cartes qu'on est en train d'établir du fond des océans et les cartes terrestres des
temps passés ? Je voudrais quand même intervenir sur la cartographie avec deux aspects. D'abord on peut quand même cartographier. On fait des cartes avec les navires océanographiques. En un mois, on cartographie la superficie de la Bretagne, par exemple, maintenant, avec une précision où on a un point de mesure tous les 20 ou 30 mètres. Donc ça permet... évidemment, si on est dans une zone très peu profonde, la couverture est moins grande d'abord, et ensuite, un point tous les 20 ou 30 mètres, ça suffit pas. Mais quand on est au fond de l'eau, ça suffit. Par ailleurs, on a aussi des moyens indirects d'avoir une cartographie, et vous avez certainement déjà vu des cartes globales du fond des océans, qui sont en fait des cartes topographiques établies, non pas avec une mesure directe, mais en utilisant la navigation des satellites, qui est en fait guidée par le champ de gravité terrestre, lequel est extrêmement sensible aux courtes longueurs d'onde à la topographie des océans. Et donc on peut inverser ces données-là pour obtenir des cartes de fond des océans qu'on contrôle là où on a des données de bateaux. Et du coup, avec cette fois-ci un pixel tous les 2 km, on a une bonne compréhension de la topographie globale des océans. Alors là, encore une fois, pas adapté à la navigation, pas vraiment adapté à la navigation, à la géologie de détail, mais adapté à la compréhension des grands processus.
C'est-à-dire
adapté comme les grandes circulations océaniques, comme les grands axes de la tectonique des plaques, la grande cartographie des dorsales, les zones de subduction, les volcans intra-plaques, enfin toutes sortes de choses. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est d'un point de vue scientifique, souvent les gens disent « Ah, c'est horrible, on a cartographié véritablement que 1% ou 2%, enfin les estimations varient de la surface des océans. » Dans la mesure où les océans sont très jeunes, c'est des structures géologiques très simples en fait, parce parce qu'elles n'arrêtent pas de se créer et de disparaître, et il leur arrive pas grand-chose, en fait. Et du coup, il suffit, je dirais, pour comprendre ce qui s'y passe, hein, de cartographier bien précisément des endroits qu'on identifie comme des endroits typiques, hein. Et on comprend des processus, et ensuite on peut faire des hypothèses et se dire, ben, je vais aller vérifier que la prédiction de mon hypothèse est vraie, et on fait une seule campagne de cartographie à un autre endroit. Mais on n'a pas du tout besoin d'aller tout cartographier.
Est-ce qu'on a des surprises dans ces recherches-là ? Vous avez dit, il y a des surprises récentes ?
Ben, on a toujours des surprises et des bonnes surprises parfois. Mais ben, dans cette méthode déductive où on étudie un processus, on se dit, tiens, si ça c'est vrai, ça veut dire que si je vais là, je devrais trouver ça. Effectivement, quand on trouve ça, on est content. Ça m'est arrivé une fois de manière assez, assez chouette, et c'était vraiment c'était une jolie découverte.
Eh bien, avant de passer aux questions du public, nous allons écouter une nouvelle petite musique. Il s'agit de Helping Hand de Robert Finlay. Nous sommes toujours en public depuis Blois en compagnie de la géologue marine Mathilde Cana, de la navigatrice Isabelle Autissier et du géohistorien Christian Grataloup.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Et c'est l'heure des questions du public.
Oui, bonjour, je suis Monsieur Le Faucheur. J'aurais voulu savoir s'il existait des cartes géologiques qui recensaient, qui répertoriaient les nodules polymétalliques et qui pourrait provoquer des conflits géopolitiques.
Alors, qui voudrait répondre à cette question ? Mathilde Cana.
Alors, en fait, les nodules polymétalliques, c'est des encroûtements qui sont formés à partir de précipitations de métaux depuis l'eau de mer, hein, sur tout ce qui est dur dans les abysses, dans les fonds des océans, et qui mettent plusieurs millions d'années à se faire. Et donc, pour en avoir une certaine épaisseur, je vous amène la chose vers les cartes. Hein. Il faut se trouver dans ce qu'on appelle des plaines abyssales, donc loin des dorsales, sur des croûtes océaniques qui sont déjà anciennes, de plusieurs millions d'années. Et par ailleurs, le deuxième ingrédient, c'est qu'il ne faut pas avoir eu trop de sédimentation, parce que sinon, les sédiments auraient recouvert les choses. Donc il y a un ou deux papiers qui sont sortis avec des cartes estimant les endroits où on peut raisonnablement trouver ces nodules. Après, il y a des cartes qui existent aussi dans les eaux internationales, qui sont établies par un organisme qui dépend de l'ONU, qui s'appelle l'AIFM,
Autorité
internationale des fonds marins, je le sais en anglais mais pas en français, et qui eux ont répertorié des endroits où on savait qu'il y en a, et où ils ont, il y a déjà plusieurs années, ouvert des permis de prospection dans les eaux internationales. Et donc, oui, il y a des cartes. Et pour les conflits géopolitiques, peut-être mon voisin saura mieux que moi répondre, mais il y a des conflits à attendre dans la mesure où un certain nombre de pays se sont déclarés pour un moratoire, hein, dont la France, et que d'autres pays n'ont pas adopté cette approche. Hein.
Christian Grattalou. Voilà.
Oui, vu la profondeur, c'est évident que l'exploitation sera coûteuse. Ça fait bien un demi-siècle au moins que j'entends parler de l'exploitation des nodules polymétalliques sans que c'est donné énormément de choses. Donc même si l'administration Trump a voulu lancer des exploitations, pour le moment, ça n'a rien à voir avec ce qui est au contraire plutôt sur les plateformes continentales ou à proximité que sont les hydrocarbures. Là, ça reste vraiment l'élément géopolitique. Et la grande inquiétude, c'est ça peut être sur l'océan Arctique, qui est tout petit, qui est fermé, et où l'exploitation pourrait être dramatique. Mais les nodules, oui, bien sûr, c'est un problème d'avenir.
Est-ce que nous avons une autre question ?
Bonjour, Hélène Vasse du lycée Robert Doisneau. Je voulais vous poser une question sur la définition géologique d'un continent. Et comment est-ce qu'on sait finalement que c'est du continent ou c'est du fond océanique ?
Mathilde Cana.
Alors la définition du continent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une masse de roches qui se forme depuis des milliards d'années, en fait, qui se constitue depuis des milliards d'années, par opposition à ces plaques océaniques qui se forment uniquement à l'axe des dorsales et qui ne sont jamais plus vieilles que 200 millions d'années.
Est-ce qu'il y a une différence d'épaisseur entre
les deux ? Oui, il y a une différence d'épaisseur de ce qu'on appelle la croûte terrestre, c'est-à-dire la partie, disons, plus légère, formée de roches plus légères et souvent magmatiques et sédimentaires, qui est beaucoup plus épaisse dans les continents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont en général au-dessus du niveau de la mer, hein, et que la croûte océanique, qui est plus mince, hein, est en dessous. C'est une simple question de balance.
C'est de la roche qui flotte sur la roche.
Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on le définit. Après, la deuxième partie de votre question, elle est intéressante, c'est comment est-ce qu'on sait ? Et ça, c'est très difficile, parce que, comme je vous le disais, il y a une partie des continents qui forme ce qu'on appelle le plateau continental et qui est sous l'eau. Et qui, par ailleurs, alors on peut l'étudier avec des moyens de géophysique, de la sismique, etc. Et la transition, le moment où le continent ancien s'est divisé en deux et une nouvelle dorsale s'est créée, ce moment-là est très difficile à définir. C'est probablement quelque chose d'assez progressif et probablement pas quelque chose de qu'on peut définir comme une ligne continue, mais quelque chose en 3D, où ça s'ouvre à un moment, et puis ça s'ouvre à un autre endroit, et puis éventuellement ça se rejoint. Et donc la définition exacte, et d'ailleurs il y a un terme en géologie, on parle de transition continent-océan, ce qui veut dire deux choses. Une, c'est une définition qui est utile parce qu'effectivement il y a un processus qui est transitionnel. Et deuxièmement, c'est une définition qui est utile parce que c'est une zone dans laquelle on ne peut pas vraiment savoir qui est qui avec les méthodes qu'on peut utiliser.
Christian Grattalou.
Oui, Mathilde Cana vient de vous dire que les continents, c'est de la géologie. Mais pas du tout, c'est de la théologie. Parce que les premiers à avoir découpé le monde en Afrique, Asie, Europe, ce sont les pères de l'Église, qui n'étaient pas géologues du tout. Hein. c'est une. Il réutilisait des termes antiques, d'ailleurs, des directions antiques, pour avoir une vision du monde qui exprime la map monde médiévale découpée en trois, autour d'un grand océan, enfin à l'intérieur d'un haut qui est le grand océan. Il y a trois terres qu'ils ont appelées Europe, Afrique, Asie, et qui correspondent aux trois fils de Noé. Donc c'était pour être conforme au texte biblique, et les trois fils de Noé allaient dans trois directions pour repeupler le monde, ce qui est conforme au texte de la Genèse. Ensuite, effectivement, en 1507, on a inventé l'expression « America » pour avoir une quatrième partie du monde, et on a inventé au 19e siècle, une expression un peu farfelue pour la géologue, évidemment, qui est Océanie. Voilà. Mais c'est des parties du monde, comme disait l'école française, jusqu'à ce qu'on s'anglicise et qu'on utilise le mot continent pour découper en cinq. En fait, il y a deux continents, l'ancien et le nouveau monde, et puis cinq parties du monde. Et tout ça, c'est parfaitement social. Bien évidemment, on a utilisé ces mots pour désigner les grandes masses de terres émergées. Donc la géologue va utiliser des mots qui seront aussi celui du géohistorien, mais ça n'a pas la même histoire. Xavier Le Pichon a dû jouer un grand rôle, je crois, en nommant les plaques, en utilisant ces vieux mots de partie du monde.
Isabelle Autissier.
Non, mais tout ça, c'est aussi de la politique, bien sûr. Aujourd'hui, chaque pays a droit, entre guillemets, à une zone économique exclusive qui est à 370 km de ses côtes. Encore faut-il définir précisément ce qu'est le trait de côte. Mais on a le droit de déposer des demandes supplémentaires, justement en arguant du fait que le plateau continental se prolonge au-delà de ces 200 000, de ces 370 km. Évidemment, quand il y a du pétrole, quand il y a des intérêts géopolitiques, et là, on voit bien, la France le fait, hein, pour un certain nombre d'endroits, la Russie le fait, là, voilà, il y a tout un tas de pays. Donc on voit bien que, finalement, la géologie sous-marine, elle influence beaucoup la politique. Et puis, sur la question des nodules, et là, je mets un peu ma casquette environnementale du président d'honneur du WWF, l'autorité des fonds marins n'a pas encore délivré d'autorisation d'exploitation. Et ça, c'est une discussion qui est en cours en ce moment et dans laquelle il y a un bras de fer environnemental extrêmement fort, puisque avec la France, il y a, je crois, aujourd'hui une trentaine, un peu plus de 30 pays qui sont pour un moratoire, qui est de dire allons d'abord comprendre comment marchent ces endroits, allons d'abord à la découverte de la vie extraordinaire qu'on ne connaît pas, qui est dans ces grands fonds, avant de commencer à l'exploiter et éventuellement de tout détruire, parce que les méthodes d'exploitation vont être extrêmement intrusives.
Mathilde Canin.
Oui, moi j'irais même plus loin. J'ai fait partie de personnes consultées par le bureau du Premier ministre en amont un peu des décisions que Macron a prises de finalement se rallier la position d'un moratoire. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas uniquement parce qu'on lui a raconté, moi-même et des collègues biologistes, sur les impacts possibles environnementaux. C'est aussi parce qu'il n'y a pas de lobby minier en France qui soit intéressé par l'exploitation des ressources sous-marines actuellement. Enfin, je pense, hein, peut-être je lui donne des motifs un peu trop, mais bon, bref. Pour une fois, la convergence va dans le bon sens, et je dirais que notre message, ça n'a pas été tellement. Évidemment, c'est bien d'avoir plus d'études, mais ça n'a pas été tellement. Il faut étudier plus. Hein. En fait, actuellement, on sait suffisamment pour savoir que c'est impossible de ne pas avoir un impact environnemental très important, et qu'on peut même craindre d'avoir un impact environnemental vraiment catastrophique, pour une raison bien simple, c'est que très souvent on pense. Alors ça, c'est une autre chose qui est très importante quand on essaye de faire le lien système Terre entre la Terre solide et ses enveloppes, l'océan, l'atmosphère, la vie, c'est qu'en fait, on se rend compte que j'ai un petit peu oublié, perdu le fil.
Vous disiez qu'il y a quelque chose de terriblement terriblement
c'est
impactant.
C'est un sujet qui m'émotionne trop. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser, bon, ben, on va récupérer ces machins qui sont sur le fond, on va racler le fond. Et ça, on a des études déjà depuis une dizaine d'années qui ont regardé des endroits où, effectivement, il y a eu des essais de raclage de fond il y a 40 ans maintenant, ou presque 50 ans, et où la vie ne s'était pas reconstituée. Donc ça, on a la réponse, parce que dans ces grands fonds, les organismes ont des métabolismes très très lents, et voilà. Et puis par ailleurs, ces organismes-là, ils sont fixés sur les nodules, et quand on enlève les nodules, bon, voilà. Mais en fait, maintenant, ce qu'on sait, et on le sait en partie, c'est assez drôle, parce qu'on aurait pu y penser, mais très souvent, on pense même, nous, scientifiques, en zone cloisonnée. Si je m'occupe du fond, des roches, parle que du fond. Mais on sait maintenant qu'en fait, on ne peut pas exploiter ces nodules sans générer des panaches de poussière qui vont en fait impacter toute la colonne d'eau, depuis les zones où se fait la photosynthèse et donc le piégeage du carbone atmosphérique dans des organismes qui ensuite tombent en pluie, sont mangés. Il y a toute une chaîne qu'on ne connaît pas, etc. Et donc on va perturber sur 5000 mètres d'eau une colonne de vie qu'on connaît très mal, mais dont on sait que c'est elle qui piège 30% du carbone en excès, donc plus que les forêts terrestres, d'accord. Et on prend le risque, en laissant des compagnies enfin, exploiter ces choses-là, de déséquilibrer, ne serait-ce que de quelques pouillèmes, cette machine qui s'appelle la pompe biologique à carbone de l'océan. Voilà, c'était ce que je voulais dire.
On arrive bientôt à la fin de cette émission et en général, je vous fais écouter un petit son que j'essaie de vous faire découvrir et reconnaître. Je pense sincèrement que c'est complètement impossible que vous reconnaissiez de quoi il s'agit, mais je vais quand même vous le faire écouter. Ouvrez bien vos oreilles, le son ressemble à ça. Que vous avez une idée de ce que ça peut être?
Moi, j'ai une petite idée. J'irai du côté du clic des mammifères marins. Peut-être de cet essai.
Alors, ça y ressemble effectivement.
Ou bien c'est la glace.
C'est une fabrication humaine.
Ah.
On parle d'un morceau d'un bateau. Je vais vous dire ce que c'est parce que franchement, c'est complètement impossible. Il s'agit de l'aiguillot d'une partie, c'est une partie du gouvernail d'un bateau ancien. Mais alors, ce qui est amusant dans ce son, c'est de quel bateau il s'agit. Il s'agit d'une réplique du Nao Victoria, qui est le bateau de Magellan quand il a fait le tour du monde. Ils étaient partis à 5 et c'est le seul navire qui ait fait le tour du monde. Et il se trouve qu'il existe une réplique aujourd'hui qui fait le tour du monde et nous avons demandé à son équipage, notamment à Maëla Leloup, de nous faire cet enregistrement que vous venez d'entendre. Et elle nous a aussi fait l'enregistrement suivant qui est le son du vent dans les voiles du bateau. Et ce qui est assez drôle, c'est que on a demandé à Maëla Leloup de nous expliquer de vive voix de quoi il s'agit, ce qu'on est en train d'entendre là. Mais entre le moment où elle nous a envoyé les deux enregistrements précédents et le moment où elle devait nous expliquer ce qui est en train de se passer, elle a disparu. Elle est en mer, elle est sur le bateau et il ne capte plus. Donc on n'a pas pu avoir l'explication de sa voix jolie. C'est moi qui ai dû vous la donner. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, Isabelle Autissier, que les bateaux ont une sorte d'empreinte sonore? Vous reconnaissez un bateau à son son, au bout d'un moment?
Alors, les bateaux ont un comportement qui génère, oui, une empreinte particulière. Maintenant, après, il faut quand même avoir un peu l'oreille fine pour différencier. C'est vrai qu'un vieux gréement, par exemple, comme ce qu'on a tout dit... Enfin, moi, je m'inquiéterais un peu, quand même, du bruit du gouvernail. Hein, ça me paraît un peu... Voilà. Mais oui, les vieux bateaux, par exemple, qui sont en bois, qui craquent, qui avec des mâts qui, à l'époque, étaient aussi en bois, enfin, tout ça, génère des sons, alors qu'aujourd'hui un bateau de course par exemple qui fait le Vendée Globe, c'est extraordinairement bruyant, d'ailleurs on est obligé de travailler avec des casques à fréquence inverse en permanence, hein, parce que c'est des hurlements en fait, la vibration de la quille en carbone, le bruit du vent pour le coup extrêmement aigu, et c'est très fatigant pour l'organisme humain, donc oui on peut arriver à avoir une certaine empreinte sonore des bateaux.
Eh bien, je crois que nous arrivons à la fin de cette émission. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, Isabelle Autissier, Christian Grataloup, Mathilde Cana, et merci au public de l'auditorium Samuel Paty à Blois. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la technique Julien Girard, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec deux scientifiques et un invité mystère pour une émission techno-robotique. Tout de suite, après le journal, retrouvez Thomas Negaroff pour le grand face-à-face. Bonjour Thomas, de quoi allez-vous nous parler ce midi ?
Bonjour Christophe, une leçon d'histoire du populisme avec l'un de nos grands historiens, Marc Lazare.